Tu m'as livré en secret en me disant que tu allais prêcher sur le thème de Jésus, pain de Dieu pour l'humanité. Alors, ça m'a beaucoup réjoui d'entendre ce thème et je me réjouis de vivre ce temps avec toi. J'aimerais prier pour toi.
Okay.
Seigneur, merci de ce temps, ce cadeau que tu nous fais d'écouter, de pouvoir écouter Pierre. Merci pour le cadeau que tu nous fais d'avoir confié à Pierre ce que je crois, une langue de disciple, comme le dit Esaïe. Aussi Seigneur, j'aimerais le bénir en ton nom. Je crois que tu l'habites par ton esprit, tu l'inspires, tu le conduis, et tu nous donneras chacun d'entre nous une oreille de disciple, afin d'entendre ce que tu veux nous confier à chacun d'entre nous, ce qui va nourrir notre existence, ce qui va nous faire grandir les uns avec les autres et grandir avec toi. Amen.
Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons deux bougies là qui symbolisent le deuxième dimanche de l'Avent, la préparation de la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus. Et il m'a paru juste qu'on partage ensemble le passage de Matthieu 1, du premier verset jusqu'au verset 25. Donc soyez attentifs et patients, parce que c'est un long passage, j'en suis conscient. Mais je ne pouvais faire autrement, parce que je trouve que c'est un texte assez riche et plein de sens, et la louange m'a déjà devancé en parlant de certains points que nous allons aborder ensemble. Et pour cela, je vais demander à mon frère et ami Éloge de nous faire la lecture.
Matthieu 1, verset 1 à 25. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péré et Zérak de Tamar. Péré eut Hetsrom. Hetsrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachom, Nachom eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David, le roi David eut Salomon de la femme d'Uri, Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abija, Abija eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Ozias, Ozias eut pour fils Jotham, Jotham eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel, Zorobabel eut pour fils Abihud, Abihud eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadoc, Sadoc eut Akim, Akim eut Eliud, Eliud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Matan, Matan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus.
Merci. Amen. Donc, je pense que le texte est assez clair et direct, mais je trouve qu'il est important qu'on essaie de voir un peu qui est ce bébé Jésus que nous allons célébrer dans quelques jours. D'abord, il est le bébé adoptif de Joseph. Quand nous lisons le texte, on nous dit que Joseph est descendant de David, et ça c'est la parole de l'ange qui lui dit de ne pas avoir peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc, en termes biologiques, nous savons qu'un enfant, c'est le résultat d'un spermatozoïde et d'une ovule. Et dans le cas de notre bébé Jésus, ce n'était pas le cas. Ce qui a envoyé Joseph dans un état un peu critique, où il a voulu absolument faire les choses pour se protéger et en même temps protéger sa fiancée. Et l'ange intervient pour lui dire non, ça c'est un fait extraordinaire, cet enfant n'est pas de toi, c'est vrai, mais c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, tu vas jouer le rôle de père adoptif. Et plus tard, on verra ce que Joseph fait. Donc, le Seigneur Jésus, il tient sa lignée davidique par Joseph, son père adoptif, d'où son nom fils de David, quand on lit le premier verset de Matthieu, et aussi en Marc 10, 47, quand vous lisez l'histoire de Bartimée, quand il a voulu que le Seigneur l'aide, il a dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Donc, l'appellation fils de David réfère au Messie que les Juifs attendaient depuis des années. Et quand il est arrivé, c'est ça aussi le paradoxe, quand ce Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce qu'il a envoyé à la croix plus tard. Deuxième élément, c'est que ce bébé que nous célébrons, il est le seul bébé conçu au monde hors norme biologique. Comme je le disais avant, ce n'est ni par l'union d'un spermatozoïde humain et une ovule, c'est l'action du Saint-Esprit. Ce bébé est conçu par le Saint-Esprit à travers une vierge. Pour nous autres chrétiens, nous l'acceptons par la foi. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui trouve ça un peu bizarre et extraordinaire, J'invite cette personne à se laisser guider, à écouter ce que la parole de Dieu peut lui enseigner. Troisième élément, il est le bébé qui a paradoxalement tout le pouvoir divin. Je m'aime paradoxalement parce qu'en l'état de bébé, il a dû être transporté de Nazareth jusqu'en Égypte pour fuir le roi Hérode. Et s'il avait le pouvoir, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi il ne pouvait pas rester et se défendre. Mais en tant que bébé prenant la chair humaine, il était sous le soin de ses parents, Joseph et Marie. Mais entre-temps, il a quand même le pouvoir. Et plus tard, à l'âge adulte, sa dernière parole à ses disciples, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. » Et moi, je crois réellement qu'il avait ce pouvoir depuis le début, même avant sa naissance en chair humaine. Seulement, c'est par humilité qu'il s'est rendu bébé. Et c'est ce qui nous donne le sens de Noël. Quatrième élément, il est le bébé sauveur du monde. La question qu'il faut se poser, pourquoi sauver le monde? Parce que nous vivons dans un monde rongé par la violence, la haine, l'égocentrisme et les médias des jours récents nous montrent réellement ce qui se passe. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Jésus, c'est des choses qui arrivaient. Nous vivons aussi dans un monde dans la déformation de Dieu. Je parle de déformation parce que de nos jours, on a plusieurs façons de voir Dieu. Dieu en Europe est vu d'une manière autre que le Dieu en Afrique. Par exemple, dans mon contexte africain au village, il y a certaines forêts où tu ne peux pas aller chasser dedans, certaines eaux où tu ne peux pas aller pêcher, parce que c'est des forêts sacrées, des eaux sacrées. Et si jamais tu y touches, tu as affaire au Dieu. Ça, c'est leur interprétation du Dieu créateur. Donc, on a déformé Dieu au lieu que ce soit le Dieu vivant qui vit et qui a créé ce monde. On voit plutôt Dieu à travers des êtres, des arbres, des cours d'eau et plein d'autres choses. Donc, c'est la déformation de Dieu. On vit aussi dans un monde, dans un désespoir total, sans berger, où la violence règne par maître absolu. Les attentats de Paris le 13 novembre nous en disent plus que ça. Et ceci était aussi vrai à l'époque de Jésus et l'est encore aujourd'hui. Le monde n'a pas changé et nous, face à ça, Dieu, il a eu son plan. C'est pour cela que j'ai donné le titre de la prédication « Jésus, plan de Dieu pour l'humanité ». Face à tous ces problèmes, Jésus est notre seul remède en qui nous pouvons nous confier. Et parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, et ce peuple, nous en faisons partie. Vous et moi, nous faisons partie du peuple de Dieu parce que nous sommes créatures de Dieu. Quand il a envoyé le Messie, c'était pour le peuple d'Israël, afin que Israël serve d'exemple pour toutes les nations. Et quand ils se sont tournés, il est allé vers toutes les autres nations. Et on verra plus tard dans le texte pourquoi je dis cela. La généalogie de Jésus nous révèle quelques éléments et je voudrais qu'on voie cela ensemble. Ça nous révèle le caractère de Dieu. On a chanté tout de suite Dieu d'amour, Dieu puissant, Dieu grand. Et c'est vrai, les quelques éléments que la généalogie m'a révélé dans la méditation, c'est que c'est un Dieu plein d'amour, comme on l'a chanté, plein d'amour pour l'humanité. C'est pour ça qu'il a envoyé le bébé, Jésus, qui va grandir et plus tard faire le ministère pour lequel il était venu. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous voyons aussi en Jean 3,16, Jean qui est le cousin de Jésus, dans son ministère, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est le plan de Dieu, un Dieu plein d'amour. Il est aussi un Dieu souverain, souverain parce que il ne suit les ordres de personne. Il choisit et il utilise qui il veut pour réaliser son plan. Même les êtres imparfaits, comme David, Judas, Joseph, Marie, vous et moi aussi, on est tous inclus là-dedans. On est tous des êtres imparfaits, mais cela n'empêche pas Dieu de nous utiliser quand il veut et comme il veut. Il est aussi un Dieu inclusif et non exclusif. Et quand nous voyons David, quand je lis le texte de David, ici en bas, vous voyez le roi David, Salomon, il eut Salomon de la femme d'Uri. Donc il a pris la femme de quelqu'un en envoyant ce dernier à la bataille, un soldat qu'il fait tuer au combat et prend la femme. Et Salomon, ce premier enfant est décédé et Salomon est la suite. Et nous voyons Salomon lui aussi, il a eu plein de femmes. De nos jours, on trouvera ça inacceptable, surtout dans notre contexte occidental où la polygamie n'est pas d'actualité. Abraham, il a pris sa servante, qu'il a fait un enfant avec, et il l'a chassé plus tard. Pour moi, j'estime que ça, c'est pas trop normal. Jacob, il a trahi son cousin. Judas, il eut Pérès et Zéra de Tamar, sa belle-fille. Quelle horreur! Et c'est la lignée de Jésus que nous voyons là. Rahab, une prostituée. Ruth, une étrangère. Rahab et Ruth, toutes deux étrangères, mais la lignée de Jésus suit son cours. Donc pour moi, tout cela, c'est des êtres imparfaits. Adultère, inceste, infidélité, et même Ruth, elle a utilisé quand même de la ruse pour que Boaz puisse tomber dans son piège. Moi, je trouve tout ça, c'est pas vraiment normal, mais c'est la lignée de Jésus. Un Dieu très patient dans l'exécution de son plan. Pourquoi je dis cela? 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à la déportation. Et tenez-vous bien, même pendant cette période, il y a eu une déportation, ils ont subi plein de choses atroces, sous l'esclavage, sous l'emprise d'autres personnes. Et je me demande bien, qu'est-ce que les enfants d'Israël pensaient quand ils devaient quitter leur terre natale pour se rendre à Babylone en captivité? Est-ce qu'ils pensaient vraiment que Dieu était encore là? Est-ce que Dieu était encore en train de subvenir à leurs besoins? Mais oui, il suit son plan. Le plan de Dieu, il le suivait toujours. Même la déportation faisait partie de son plan. et de la déportation jusqu'à Jésus, 14 générations. Cela nous donne d'Abraham à Jésus 42 générations. Ça, c'est la preuve de patience. Je sais que je ne suis pas patient. S'il fallait que j'attende 42 générations pour voir le Sauveur, le Messie, je ne pense pas que je pourrais tenir le coup. Et les générations sont venues, sont parties. Chaque génération pensait que le Messie allait être à leur temps, ce qui n'arrivait pas. Et donc finalement, plusieurs fois, Israël s'est tourné vers d'autres dieux. Le polythéisme. Et à cette époque aussi, Dieu toujours revenait et il les châtiait pour qu'ils reviennent à lui. Donc, un Dieu plein d'amour, Dieu très patient dans l'exécution de son plan. Peut-être que certaines personnes de nous, nous traversons des moments où nous nous disons que Dieu n'est plus là ou pourquoi il a permis cela. Mais à toi, je veux dire que Dieu, il est fidèle et il ne t'a pas oublié. Face à un tel Dieu et face à un tel plan, Jésus, qui est le Sauveur, que nous allons célébrer bientôt, comment accueillir ce Jésus-Christ? Comment accueillir ce bébé? Il est bon qu'on analyse quelques réactions de personnages bibliques, à commencer par le père adoptif. Au départ, il était terrifié, méfiant et réservé, et il finit par obéir après une intervention angélique. Hein? Le texte nous dit qu'à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Il a obéi. Marie, la mère du bébé, confuse au départ et se posant des questions, mais très joyeuse et honorée de servir son Seigneur. Quand nous lisons le texte de Luc 1, 46 à 49, voici ce que la réponse de Marie, que je demande à mon épouse de lire.
Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint.
Ça, c'est la louange, un état de reconnaissance, un état d'humilité et de réjouissance. Joseph obéissance, Marie reconnaissante et humble et joyeuse. La sœur ou Elisabeth, la sœur de Marie, qui est la tante du bébé, elle était joyeuse, reconnaissante, et elle a aussi loué le Seigneur. Quand vous lisez Luc 1, 42 à 43, vous voyez cela. Pas seulement Elisabeth, mais même le bébé Jean, qui est le bébé cousin de Jésus, il a tressaillé dans le ventre de sa mère, quand Marie est arrivée. Donc, si un bébé qui est à l'intérieur du ventre arrive à reconnaître la puissance de ce bébé que nous allons célébrer, et nous, comment réagissons-nous en cette période de l'Avent? Comment attendons-nous le Seigneur Jésus? Comment allons-nous commémorer la naissance de Jésus en cette année 2015? Pour conclure, je voudrais qu'on retienne que la généalogie de Jésus-Christ nous montre qu'il est le plan de Dieu pour toute l'humanité, sans exception. Jésus est venu pour sauver l'humanité, et cela c'est pour toute l'humanité, sans exception. Jésus-Christ aussi a dompté toutes les imperfections de ce monde, tous les obstacles et toutes les difficultés pour nous sauver. C'est pour nous qu'il est venu. Et cela n'a pas été facile. Il a même été envoyé à la croix plus tard. Mais pour l'instant, c'est sa naissance que nous fêtons. Et préparons-nous donc avec un cœur humble, joyeux, reconnaissant, quels que soient nos problèmes quotidiens, nos douleurs, nos rêves et prières non exaucées. Quant aux prières non exaucées, moi j'en ai plein. Quant aux rêves, quant aux douleurs, j'en ai plein. Mais je refuse de laisser ces réalités, mes réalités quotidiennes, m'empêcher de célébrer cette Noël avec joie. Je veux mettre ça de côté. Je veux mettre mes problèmes de côté et me focaliser sur le plan de Dieu qui est de me sauver, qui est que Dieu, il a un plan meilleur pour moi et je me réjouis de fêter cette Noël cette année. Alors que chacune et chacun reçoive la visitation d'Emmanuel de façon spéciale pendant cette période de Noël. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient toutes les difficultés que tu as dû endurer cette année, Dieu te dit, je suis avec toi, je ne t'ai pas oublié. Jésus est là et fêtons-le avec joie, reconnaissance et obéissance. Amen.